L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 1er août 1976. Il est 15h. Sur le circuit automobile du Nürburgring en Allemagne, le pilote Niki Lauda sera bientôt victime d'un des accidents les plus spectaculaires de Formule 1. Sur la piste s'avancent les gladiateurs des temps modernes, casque à la main et casquette vissée sur la tête. 20 pilotes de course défiant la mort et les lois de la physique chaque week-end dans le cadre de la plus belle discipline automobile au monde, la Formule 1. Parmi eux résonnent les noms de certaines légendes, guerriers d'un panthéon bien particulier, celui du sport auto. Andretti, Peterson, Fittipaldi, Lafitte, Regazzoni, Hunt et Lauda. L'Autrichien a sa tête des mauvais jours. Il est avec les commissaires de la course et il ne comprend pas pourquoi diable ce Grand Prix est maintenu en dépit de toutes les règles de bon sens. Depuis une semaine déjà, lui et quelques autres pilotes mènent une fronde pour ne pas participer à cette épreuve. Lauda n'est pas un pleutre. Il est champion du monde en titre. Le ring, il l'a déjà conquis et les deux années précédentes, il en a été le poleman. Foudrage. Il rappelle à ses interlocuteurs qu'en 1970, les pilotes ont boycotté le circuit. Mais rien n'y fait. La réunion des pilotes débouche sur une décision sans appel. La course va avoir lieu. Le circuit d'Allemagne où l'enfer vert est le plus exigeant, le plus dangereux aussi de toute la saison. 73 virages, c'est beaucoup. 22,8 km de course, le tout sur 14 tours. Une erreur, et la faucheuse vous attend au bout d'une ligne droite ou d'une chicane. La pluie annoncée depuis des jours est arrivée, et un brouillard bas, annonciateur de catastrophe, s'est installé. Aujourd'hui, l'Apocalypse chevauche avec 26 cavaliers, tous pilotes de Formule 1. Sur une piste détrempée, James Hunt regarde de loin l'agitation provoquée par son rival de chez Ferrari. Champion du monde, mon œil. Les mots viettent. Le jeune Britannique les regarde de haut. Les baffles sur la piste crachent Dancing Queen d'Abba. Et le vainqueur des qualifications de la veille s'installe dans son baquet. Rien ni personne ne va l'empêcher de refaire son retard sur celui qu'on appelle dans le paddock l'ordinateur, alias Niki Lauda. Le nouveau pilote McLaren, qu'il est, peut être fier de son début de championnat. Le pilote Ferrari a tout de même pris de l'avance. 5 victoires pour lui et seulement 2 pour Hunt. Seul lot de consolation, il refait son retard ces dernières semaines et surtout, lui, l'anglais, il a gagné le Grand Prix de France. Toujours un plaisir de chanter God Save the Queen sur le sol des Froggies. 15 jours plus tôt, il a quand même subi une humiliation importante pour lui. Pole position, victoire et meilleur tour en course à Silverstone pour Niki Lauda. Heureusement, Niki n'est pas français, pense Hunt, en jetant son chewing-gum et en enfilant son casque. Distraitement, il jette un coup d'œil derrière lui. Les Ferrari ont arrêté de se plaindre. Les machines ont chaussé leurs pneus pluie et tout le monde a pris place dans son baquet. Au loin, ce sont les Bee Gees qui font danser le public venu en masse dans les tribunes. Un soupir. Nom de Dieu, les Allemands n'écoutent donc que du disco. Lance-t-il à l'attention de sa monoplace rouge et blanche, sponsorisée par Texaco Marlboro. Derrière lui, les rouges de chez Ferrari sont prêts à le prendre en chasse. Après un tour de formation, Hunt, qui sait parfaitement remémorer le tracé du ring, sent les gouttes de transpiration qui coulent dans sa visière. Si à l'extérieur du baquet, c'est un mâle alpha de classe supérieure que rien n'effraie, il se rappelle ici pendant ce premier tour pourquoi le Nürburgring est surnommé à voix basse « l'enfer vert » par les pilotes. D'une manière presque paranormale, chaque virage que la meute passe alourdit l'atmosphère. Le brouillard semble tomber un peu plus bas. En plus, telle une vision d'horreur, James Hunt, à la sortie du virage Bergwerk, est certain d'avoir aperçu la grande faucheuse sur le bord de la route dans son rétroviseur. Peinant à se concentrer à 100%, il revoit son jugement. Ouais, peut-être valait-il mieux annuler cette course. Peut-être. Mais trop tard. Les voyants verts se sont allumés et déjà, il a le pied à fond sur la pédale d'accélérateur. Les fauves sont lâchées. Stéphane vit un rêve éveillé. Le temps, aussi mauvais soit-il, ne peut pas effacer le sourire gravé sur son visage depuis des essais qualificatifs d'hier. Âgé de 11 ans, il a fait le déplacement de Namur avec son père. Et tous deux sont installés dans les tribunes froides du ring. Des cirés verts kaki sur le dos. Comme pour mieux se dissimuler face aux monstres qui se battent sur la piste. Le jeune garçon, comme tous les fans de Formule 1, adore certains pilotes et en déteste d'autres. Mais son cœur vibre pour un seul pilote, Ronnie Peterson. Le Suédois de 32 ans vient de claquer la porte de l'écurie Lotus et de ses magnifiques monoplaces noires et or. Aujourd'hui, il court pour l'écurie Marc, qui, elle, produit des voitures orange. Et cette année, elles sont aux couleurs de la France. Mais le jeune spectateur l'avoue bien volontiers, il n'est pas emballé par le transfert de son idole. Lui, le fan de Lotus. Mais la chance de voir évoluer si près de lui les légendes qui illuminent sa jeunesse suffit à son bonheur. Ils sont installés avec son père tout près d'un des virages les plus réputés du circuit. Le Bergwerk. Un peu barbare, selon pense-t-il, mais il colle bien au tracé, tant il lui semble impossible à passer à pleine vitesse. Lors du tour de formation des pilotes, tour de chauffe, au passage de la meute, Stéphane regarde son père et lui adresse un sourire. Au moment du passage de l'Oda, le jeune garçon applaudit et, quand enfin apparaît la marque de Peterson, il exulte. Stéphane ne le sait pas encore, mais dans 2 ans, son pilote préféré va se tuer au volant d'une Formule 1 en Italie. Pire encore, son père et lui vont aujourd'hui être les témoins directs de l'une des plus grandes tragédies du sport automobile. En contrebas des tribunes, les spectateurs remarquent le brouillard inhabituellement dense qui s'installe tout près d'eux et, sans explication, ont les poils qui se hérissent. L'humidité, pense-t-il, comme pour se rassurer. Le temps passe. Sur la piste, la course s'emballe dès les premiers virages de la vertigineuse boucle de plus de 20 km. Lauda, pied au plancher, tente de recoller à la voiture de l'arrogant James Hunt. La McLaren n'est pas loin et la Ferrari du champion du monde vient mordre les chicanes dès les premières courbes. Le départ s'est relativement bien passé et la meute s'éloigne de lui. Foutu circuit, pense Lauda. Foutu McLaren aussi. Tout était programmé pour que la domination de Lauda et de Ferrari se poursuive cette année. Mais la concurrence a déniché la bonne voiture et surtout le bon pilote. La loi du sport, sans doute. Au milieu du tour, Lauda remarque que ses pneumatiques ne répondent plus de manière efficace. La piste a séché trop vite. Tout le peloton se retrouve avec des pneumatiques qui ne sont plus adaptés à la surface du sol qu'il dévore à coups de pointe de vitesse à plus de 270 km par heure. Lauda, comme les autres, est contraint d'envisager un retour au stand afin de changer ses pneus. Encore faudrait-il pouvoir finir ce tour. Au premier passage du Bergwerk, il freine tardivement et manque de perdre le contrôle. Goodyear, la marque qui fournit la gomme, a eu la bonne idée de sortir de nouveaux modèles pour le Grand Prix d'Allemagne. Dans son casque, Niki Lauda l'est maudit. La Ferrari est devenue imprévisible. Elle décroche brutalement. La séance des qualifications a été éprouvante la veille. Jamais le champion du monde n'a pu s'approcher du temps de Hunt de 7 minutes et 6 secondes. Lauda a de l'avance au championnat. Mais le jeune Britannique la lui grignote. La victoire au ring est impossible, pense-t-il. Alors visons le podium et tâchons de rentrer vivant. Devant lui, son coéquipier, le Suisse Regazzoni, a la frayeur de sa vie peu avant l'entrée des stands. Et lorsqu'il s'arrête pour le changement de ses pneumatiques, il ne peut retenir un signe de croix. Que Dieu les guide, les Ferrari comme les autres. L'enfer vert referme sur eux son emprise, chaque minute un peu plus. Son arrêt est suivi dans le paddock de la marque italienne par celui de Lauda. Chaussé de pneus secs, le roi repart avec la ferme intention d'aller chercher un chrono qui lui permettra de remonter son retard sur l'anglais. Nous sommes au début du deuxième tour. Bientôt, la tragédie sera là. Les machines de l'époque sont des plus instables, des moins sécurisantes. Elles sont comparables à des destriers revêches, des étalons fougueux et libres qui ne tolèrent aucun dieu ni maître. À l'époque, pas de pilote propulsé dans la catégorie reine par des sponsors. Non, seulement les meilleurs. L'âge d'or de la discipline se vit avec ces pilotes de la décennie 1970, véritables aventuriers qui jouent leur vie à pile ou face à chaque virage. Stéphane, son père et les autres spectateurs sont bien installés dans leur tribune, même si le soleil est le grand absent de la journée. Ils peinent à percer l'épaisse couche de nuages et la sensation de malaise mêlée à l'excitation de la course n'a pas quitté notre jeune spectateur belge. Impressionnante, la meute au premier tour est passée à toute allure à près de 280 km par heure. Patiemment, le public attend maintenant le deuxième passage. Le ring est surnommé l'enfer vert pour une bonne raison. Il est entouré par une forêt immense, composée d'arbres de toute essence, même si les conifères y sont très présents à bord de la piste. L'air y est frais, abondant, et les animaux des bois se risquent parfois jusqu'aux barrières de sécurité. Le vrombissement des moteurs les fait fuir et il n'est pas rare de voir des cervidés partir au galop à l'approche des monstres. Justement, Stéphane tend l'oreille. Au loin, du fond des abîmes, par-dessus le vent, derrière la tribune, il perçoit leur son. D'après lui, les premiers de cordée viennent de passer le troisième ou quatrième virage. Encore 2 minutes, et ils seront là. Pour Lauda, qui vient justement de mordre le bord extérieur du troisième virage du circuit, la course devient des plus difficiles. Les nouveaux pneumatiques sont un enfer. Il n'a que trop peu d'adhérence et le champion du monde n'arrive plus à semer ses plus proches poursuivants qui lui collent au train. Il enrage, perd son sang-froid. Bientôt, il déboule dans la ligne droite précédant le Bergwerk. Stéphane a déjà vu passer la McLaren de Hunt et attend patiemment les Ferrari. Le coéquipier du champion du monde est le suivant et même son père, d'habitude peu démonstratif, ne peut retenir une exclamation devant la vitesse de ses bolides. Les pilotes se battent à plus de 290 km par heure, bien aidés par leur jeu de pneus neufs. Au loin, sortant du virage à gauche de la tribune, Stéphane distingue dans le brouillard la monoplace de Lauda. Elle est magnifique et semble sortir de la bruine tel un aigle rouge en pleine chasse. Quelques rayons d'une éclaircie se reflètent sur la carlingue. Dans ce moment suspendu, l'horloge semble s'être arrêtée. Le champion du monde en titre, bientôt, va passer devant eux. Et puis soudain, tout va très vite. Le jeune spectateur remarque, en une fraction de seconde, que Lauda semble avoir perdu le contrôle de son engin. Sans pouvoir arrêter la symphonie mortelle qui se joue pour lui, Lauda s'écrase dans le parapet tout près de la tribune à près de 300 km par heure. Comme un seul homme, tous se lèvent et hurlent. À côté du jeune garçon, une femme filme avec une caméra portative. Bientôt, ces images vont faire le tour du monde. Stéphane est déjà en larmes lorsque la carcasse de la voiture prend feu et que les poursuivants, lancés à pleine vitesse, ne peuvent freiner à temps pour éviter la torche mécanique retombée au milieu de la piste. Plusieurs voitures viennent percuter Niki Lauda, dont le casque a été arraché par le choc. Le père du jeune homme, instinctivement, cache les yeux de son fils. Résonnent dans sa tête les mots prononcés par le pilote de Ferrari et retranscrits par un journaliste quelques jours avant le Grand Prix. « Je redoute ce week-end. Ça va être tellement pénible. Pour moi, le plus important, c'est d'en sortir vivant. Si tout se passe bien, ce sera un miracle, je vous le dis. Sur ce circuit, si vous avez le moindre souci sur votre voiture, c'est la mort assurée à 100%. Le ring, bonsoir, j'en ai ma claque. » Le jeune spectateur, tout comme les courageux pilotes, transformé en soldat du feu qui accourt vers la Ferrari en flammes, en est certain. Niki Lauda est mort. Il est mort brûlé vif dans sa monoplace. Nous sommes le 1er août 1976. Il est 15h20. Et le cheval cabré dans l'incendie se meurt.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte leur âge de Niki Lauda, champion du monde et as de la Formule 1. Victime d'un terrible accident le 1er août 1976, pourra-t-il survivre à ses blessures et un jour reconduire sur un circuit? Deux voitures ont percuté la Ferrari immobile. Les deux pilotes, tout de suite, accourent vers Lauda pour tenter de l'aider et surtout le sortir de son bûcher. Encore conscient, pris au piège, ses jambes sont en train de brûler et son visage commence également à être léché par les flammes. Lui, il n'a rien vu venir. Avant même de comprendre pourquoi il a perdu le contrôle, il tente tant bien que mal de se libérer de ses harnais de sécurité qui le maintiennent au cœur du brasier. Ses deux premiers sauveteurs sont bientôt rejoints par d'autres. Parmi eux, un homme que Lauda connaît bien, Arturo Merzario. Ce nom ne vous dit rien, et c'est plutôt normal. L'Italien n'est pas resté une légende de son sport, inscrivant seulement 11 points en 57 Grands Prix disputés. Mais sur le ring, il est là, en cette funeste journée de l'été 1976. Lui et Niki ont des différends très marqués depuis des années et se supportent cordialement. Le fantasque latin, pilote chez Wolf Marlboro, arbore toujours un chapeau de cow-boy, des ceintures de chasseur de bison qui lui donnent un air de Texas Ranger. Autour de la Ferrari sont maintenant regroupés les trois pilotes et ils ne peuvent pas aider l'Autrichien, tant le feu qui l'assaille est puissant. Dans un cri de souffrance terrible, il appelle à l'aide. Les commissaires, avec leurs extincteurs, où sont-ils? Un des deux premiers pilotes arrivés sur les lieux murmure qu'ils arrivent, mais sont encore à plus d'un kilomètre. L'Italien Merzario n'a pas le choix et, sans réfléchir, plonge ses deux mains dans les flammes. Avec l'aide de Lauda, toujours conscient, ils essayent tous deux d'arracher cette foutue boucle qui le retient prisonnier dans son véhicule. Mais très vite, Lauda s'évanouit. Ses forces le quittent. Son corps se détend alors et, au miracle, la boucle se libère enfin. Merzario soulève le poids-plume champion du monde et le dépose sur la piste. Brûlé lui-même aux mains, il ne ressent pour le moment aucune sensation tant l'adrénaline le porte. La douleur, ce sera pour plus tard. Lauda, lui, est totalement inconscient. Drapeau rouge, la course est arrêtée. Hunt, qui truste toujours la première place, est incrédule. Pas le temps de réaliser qu'il est déjà au stand. En voyant le drapeau s'agiter, un frisson parcourt son échine de haut en bas. Et si ce qu'il a vu dans son rétroviseur lors du tour de formation était vraiment la faucheuse? Après tout, ce circuit est des plus dangereux, c'est vrai. Lorsqu'il apprend que Lauda s'est écrasé peu avant le bergwerk, il s'écroule sur la première chaise à sa disposition, les jambes qui flagellent. Le pilote McLaren, la mine défaite, en écoutant les premiers détails de l'accident, est pris de nausées. Jamais le champion du monde ne survivra à un tel crash. Sans solution pour aider son concurrent, et alors même qu'il est cartésien depuis toujours, il prie, les bras posés sur sa monoplace. « Notre Père qui êtes aux cieux ». Les services de secours sont enfin arrivés et Lauda est chargé sur une civière avant d'être emmené à l'hôpital d'Adno au service des soins intensifs. Les sauveteurs sur place, qui soignent également les mains brûlées de Merzario, lui confirment que Lauda n'a que très peu de chances de survie. Ses brûlures sont extrêmement graves et, pire encore, ses poumons ont inhalé des vapeurs d'essence hautement toxiques. Ainsi meurent les véritables demi-dieux, pense en son fort intérieur le pilote italien, alors qu'une larme coule sur son visage noir de suie. Les médecins allemands qui voient arriver le pilote Ferrari à l'hôpital ne peuvent contenir leur émotion et leur haut le cœur. L'Autrichien n'est pas mort dans l'ambulance et voilà déjà un premier miracle. La combinaison est découpée en prenant soin de dégager les zones brûlées de la pression du textile. Lauda est ensuite enveloppé presque de la tête aux pieds. Les manipulations terminées, le médecin en chef sort du bloc et s'adresse au secrétaire qui, non loin de là, s'épanche sur le statut de star de leur nouveau patient. D'un air grave, coupant court au ragot, il demande que l'on fasse venir sur place un prêtre de toute urgence. Niki Lauda ne passera pas la nuit. Dans les stands du Nürburgring, les discussions vont bon train à propos d'une éventuelle reprise de la course. Les commissaires étudient la question au cours d'une réunion extraordinaire. Du côté des pilotes, Un peu moins du tiers des engagés les pousse à annuler l'épreuve. L'écurie Ferrari, autant dans un esprit de soutien à Lauda que stratégiquement pour le championnat, est de cet avis. Tout le contraire de McLaren et Hunt, vous l'aurez compris, qui voilà une bonne occasion de rattraper les rouges au classement. Finalement, les commissaires ordonnent un nouveau départ. Cette deuxième course d'Allemagne 1976 ira cette fois au bout, sans autre incident, nécessitant l'intervention des secours. Tout de même, ce sont 11 pilotes sur les 26 engagés qui sont contraints à l'abandon, soit à cause de panne mécanique, soit par suite d'accident. La bonne opération est incontestablement pour McLaren, qui place ses deux pilotes sur le podium, avec Hunt en grand vainqueur. Le coéquipier de Lauda chez Ferrari, choqué, traumatisé par l'accident de son compagnon, ne termine qu'à une triste 9e place. Et notre jeune spectateur dans tout ça ? Stéphane, ébahi par la violence des scènes qu'il a pu voir lors de l'accident du champion du monde Niki Lauda, a regardé toute la deuxième course d'un air distrait, sans piper mot. Cette journée, qui devait être une fête, ressemble bien plus à des funérailles. Et pour ne rien arranger, son pilote préféré a aussi été contraint à l'abandon à la suite d'un accident sans gravité. Malgré cette déception et le choc émotionnel qu'a provoqué chez lui le calvaire de Niki Lauda, il repart du ring avec la certitude que sa voie est tracée. Sur le chemin du retour vers Namur, il annonce à son père sa décision. Il sera pilote de course. La situation à l'hôpital, elle, est beaucoup moins réjouissante. Il est 17h30 et enfin entre dans la chambre le prêtre dépêché pour accompagner Niki dans ses derniers moments. Le bip des machines résonne dans la tête du grand brûlé, sédaté à assez haute dose pour être maintenu inconscient. Pour autant, son esprit est là, au cœur de cette chambre. Il perçoit les mouvements autour de lui, les paroles qu'on lui adresse, les gestes de soins et surtout, il est capable d'identifier déjà les zones amputées de chair et de terminaisons nerveuses. Même son visage est ravagé. Soudain, il entend une voix s'élever dans la nuit que forme son inconscience. Il entend des bribes de mots, sans reconnaître pour autant la personne qui lui parle. Que votre nom soit sanctifié, accueillant votre saint, votre serviteur. Et soudain, il comprend. Un homme de Dieu est là, qui plus est, en train de lui donner les derniers sacrements. Niki Lauda voudrait crier, hurler à cet homme de s'en aller. Comment est-ce possible que les équipes médicales ne lui donnent pas une chance ? Il ne veut pas mourir. Mieux, il ne va pas mourir. La mort, il en fait son affaire. Lui, l'un des plus grands sportifs de l'histoire du sport automobile. Nous sommes presque un mois après l'accident, le 29 août 1976, il est 16h. Dans la chambre d'hôpital d'un blanc immaculé, un ventilateur allumé produit le bruit d'une turbine. Niki Lauda, le poing serré sur son lit, a presque l'écume aux lèvres de colère. Machinalement, il termine sa compote de pommes. Elle est très bonne, cette collation, c'est pas le problème. Sur une petite télé à l'autre bout de la pièce, il assiste impuissant au triomphe de son rival sur le circuit des Pays-Bas. Victoire alors que la pole le samedi avait été gagnée par Peterson. Décidément, le Suédois est incapable de pouvoir garder une position. À la sortie du podium, Hunt adresse un message aux caméras. « Niki, on pense à toi !»« Mon œil, » marmonne Lauda. Sa deuxième couronne est en train de lui échapper et elle va finir sur la tête de ce jeune gamin qui mâche sans cesse du chewing-gum. Les médecins ont été clairs. La course s'est terminée pour le pilote Ferrari. Pourtant, ces mêmes médecins disaient aussi qu'il allait mourir à son arrivée dans le service il y a un mois. Résultat, Lauda a récupéré une partie de son visage et surtout, sa rééducation est en cours. À l'extérieur de la chambre, les infirmières se trémoussent sur la reprise funk de la 5e symphonie de Beethoven de Walter Murphy. De temps à autre, Jen, la jolie blonde du service, jette un coup d'œil dans la chambre, comme pour vérifier que Lauda ne s'est pas sauvé. De manière un peu impulsive, Niki saisit le téléphone qui se trouve sur sa table de chevet et compose le numéro du Big Boss, Enzo Ferrari, lui-même. Dans 15 jours, la caravane de la Formule 1 sera à Monza, en Italie. Au bout de la 4e sonnerie, Le parrain de la Scuderia répond et s'empresse de demander des nouvelles de son poulain. Parfaitement déterminé et d'une voix lapidaire, Nicky demande à son patron l'impossible. Mister Ferrari, je récupère mon baquet à Monza. Mon retour se fera à la maison.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Nicky Lauda. Alors que tout semblait le condamner, le pilote de l'écurie Ferrari est tiré d'affaire, repoussant les limites de la souffrance et du courage. Son pari est fou, reprendre le volant avant la fin de la saison en cours. Mission impossible, vous dites-vous. Eh bien, venez avec moi. Nous prenons la direction de l'Italie, terre ancestrale des Ferrari. Monza, 11 septembre 1976, il est 14h. Dans le paddock de l'écurie McLaren, règne un silence de mort depuis 2 heures. Lorsque les équipes ont reçu la liste des inscrits pour la course, ils ont cru à une mauvaise blague. L'accident de Lauda, aussi malheureux soit-il, ouvrait pour James Hunt un boulevard vers la couronne suprême, celle de champion du monde. Le coéquipier chez Ferrari de l'accidenté n'a pas le niveau pour empêcher son arrivée au sommet. Oui, mais voilà, sur cette feuille est inscrit le nom de Nicky. Hunt se prend la tête entre les mains et se demande comment tel tour de magie est possible. 6 semaines après un accident dont il est sorti à moitié mort, brûlé vif, il est de retour. Ce mec n'est pas un homme, pense-t-il. C'est un demi-dieu. De l'autre côté du paddock, le champion du monde 1975 répète à chaque journaliste qu'il croise, chaque pilote, chaque mécanicien, qu'il n'a plus mal. C'est faux, bien entendu. Mais il a mis au point une liste de subterfuges qui permettent de faire illusion. Il est bandé sur sa tête, le haut de son crâne est encore trop sensible. Pour le cacher, ça et sa spectaculaire perte de cheveux, il enfonce sur son crâne une casquette qui, plus jamais, ne le quittera dorénavant. Il est défiguré. Une partie de son visage a quasiment disparu, mais les greffes ont permis de le dissimuler. Au journaliste de l'INA, sans se mettre la pression, il annonce que Monza sera en entraînement, avec en ligne de mire le prochain Grand Prix, celui du Canada. En Italie, il veut limiter la casse. En Amérique du Nord, l'objectif, c'est de gagner. Miraculeux, certains disent. Lauda, lui, ne pipe mot. Sous la pluie de Monza, seulement 40 jours après son terrible accident, il est bel et bien sur la ligne de départ. Les qualifications du samedi finissent de démoraliser Hunt, qui se plante complètement alors que Nicky se qualifie à la 5e place pour le départ du lendemain. Personne n'est dupe. Il est là pour marquer des points, même si c'est 2 ou 3. Dimanche 12 septembre, il est 16h25, à pleine vitesse, vissé dans sa voiture tricolore, Peterson passe la ligne d'arrivée en grand vainqueur. Gagner Monza, c'est pour lui un rêve de gosse. Ironie de l'histoire, c'est sur ce même circuit que 2 ans plus tard, le Suédois se tuera après un accident infernal. James Hunt, lui, regarde l'arrivée des stands. Le Britannique, totalement déboussolé par le retour de son plus grand adversaire, est victime d'une sortie de piste au cours du Grand Prix et contraint à l'abandon. Il passe le reste de la course à souhaiter que Lauda termine hors des points. En 1976, en Formule 1, les 6 premiers pilotes marquent des points pour le championnat. Encore 3 voitures et Hunt n'aura pris aucun retard. Tout d'un coup, et en bloc, tout le paddock se lève. Blême, comme s'il avait vu un fantôme. La 2e Ferrari vient de passer la ligne d'arrivée. Lauda termine 4e pour sa reprise et marque donc 3 points. Hunt discute avec ses ingénieurs, tombe des nues. Sa cigarette s'écrase au sol et s'éteint dans une flaque d'eau sur la piste détrempée. Effectivement, Lauda n'a rien d'un homme ordinaire. Après la course, Lauda se précipite dans le stand de son sauveur sur le ring, suivi par une nuée de journalistes et d'officiels. L'Italien est là. Il porte son chapeau Marlboro et sa combinaison de pilote. Au pied, ses fidèles Santiago. Niki, d'une poignée de main chaleureuse, les yeux embués de larmes, le remercie. Il a un cadeau pour celui qui n'a pas hésité à plonger ses mains dans les flammes pour le sauver. En remerciement, comme un symbole, Loda offre sa Rolex en or à son bienfaiteur. Celle qu'il l'a reçue après son premier titre de champion du monde. Les deux hommes se saluent et Loda file au centre de soins pour faire changer son bandage. Encore 3 grands prix et il recevra une autre Rolex de champion du monde, pense-t-il en sifflotant. Nous sommes le 24 octobre 1976, il est 14h. Le légendaire Mont Fuji écrase de sa majesté la piste du Grand Prix du Japon, le dernier d'une saison qui a tenu tout le monde en haleine. Niki Lauda a 3 points d'avance sur James Hunt. La pluie qui s'abat sur la piste lui fait dire à son ingénieur en chef que la chance a tourné. Il y a 3 semaines, il a terminé hors des points au Canada alors que Hunt, le jeune loup britannique, a gagné. Il y a 15 jours aux USA, victoire de Hunt encore, bien que Lauda ait limité la casse avec une 3e place sur le podium. Cet après-midi, ils partiront l'un derrière l'autre à la 2e et 3e place. 73 tours et les dieux du sport rendront leur verdict. Au moment de prendre le départ, la pluie s'intensifie. Lauda, le regard noir, enfile son casque, ses gants et se glisse dans son baquet protégé par des parapluies de part et d'autre. Il est face à un dilemme cornélien. Piloter dans ces conditions est d'un danger extrême. Il y a 3 mois à peine, il manquait de mourir et il se questionne. Faut-il risquer sa vie pour une 2e couronne mondiale ? S'il est champion cette année après la tragédie du ring, il entre dans la légende. Mais après tout, n'y est-il pas déjà ? Un retour tonitruant 40 jours seulement après le terrible accident. Un podium aux États-Unis au bout de ses limites. N'était-ce pas suffisant ? Il promet à son ingénieur à côté de lui de faire un point d'ici 1 ou 2 tours. Devant lui, la McLaren de James Hunt est déjà prête à en découdre. Nous sommes à la fin du 3e tour du Grand Prix du Japon. Niki Lauda, la visière embuée d'eau, les mains tremblantes, décide de rentrer au stand et d'abandonner. Il n'est pas seul. La légende Fittipaldi et l'Italien qui l'a sauvé en Allemagne jettent aussi l'éponge. Il faut être fou pour conduire sous cette pluie torrentielle. Et à choisir, Lauda a finalement opté pour la vie. De toute manière. Et aussi surprenant que ce soit, Hunt, qui doit maintenant finir au pire 3e pour être champion, n'est pas dans le coup. Niki s'assoit sur la carlingue de sa Ferrari et en silence, comme en communion, fixe les écrans nerveusement. 52e tour sur 73. James Hunt enrage. On lui a signalé l'abandon de Lauda et alors qu'il a un boulevard devant lui, la McLaren répond mal et semble impossible à conduire sous ce temps. Abandonner ? Jamais. Comme à son habitude, il compte repousser ses limites. Il vient de doubler le coéquipier de Lauda chez Ferrari et il est maintenant 4e. Encore une place et il sera champion du monde. Encore une place et c'est l'Olympe qui va s'ouvrir devant lui. 72e tour. Lauda, nerveusement, tapote du pied et se ronge les ongles qu'il n'a presque plus. Le mont Fuji tonne, encerclé par les nuages, et James Hunt sur la piste est toujours 4e. Niki, lui, est donc toujours champion du monde. Dernier tour. Les monoplaces rugissent pour la dernière fois de la saison le long de la voie des stands. Et la pluie n'a pas cessé. Le tour est rapide pour un circuit qui fait à peine plus de 4 km. Dans moins de 2 minutes, tout sera décidé. Lauda pense déjà à sa 2e couronne quand soudain, cri d'effroi chez Ferrari. James Hunt vient de passer 3e à 30 secondes de la fin du tour. James Hunt entame le dernier tour avec l'énergie du désespoir. 1 minute 20 pour devenir champion du monde. Devant lui, le pilote Alan Jones semble presque le narguer et refuse de lui laisser la place. Une couronne, ça se mérite, petit. Pas le temps de prendre sa respiration 10 fois que la moitié du tour est passée. La piste est détrempée. Tenter un dépassement relève du suicide, mais Hunt n'en a cure. Il s'engouffre à l'extérieur du virage et oblige son rival du jour à lui céder la troisième place au prix d'une manœuvre insensée. Sous le coup d'une décharge d'adrénaline puissante, Hunt n'a pas compris qu'il était en train de devenir champion du monde. 20 secondes plus tard, déboulant dans la dernière ligne droite, remarquant tout le team McLaren sur les parapets qui hurlent son bonheur, il comprend. Il comprend et se met à pleurer fou de joie. Cette victoire, absolument hallucinante, s'est jouée pour un seul et malheureux point. De retour au stand, Hunt est ovationné, porté au nu par toute l'équipe britannique. Un peu plus loin, Lauda est aussi en larmes. Roule sur ses joues sans désespoir. Beau joueur, Hunt a une pensée sincère pour Lauda et vient le consoler peu de temps après son succès. Déjà, le pilote Ferrari prépare sa revanche. Lauda perd son numéro 1 réservé aux champions en titre et récupère son numéro fétiche, le 11. Pourquoi ce numéro ? Il en est persuadé à la fin de l'année, il aura gagné le droit de porter une deuxième fois le numéro 1. Il ne va faire qu'une bouchée de celui qui lui a volé sa deuxième couronne. Et effectivement, le jeune Hunt sera lâché très rapidement en 1977. Andretti et sa Lotus apparaîtront comme favoris pour le titre, mais des casse-moteurs à répétition vont le priver de son rêve. Lauda n'est plus que le deuxième pilote de l'écurie, même pas leader de Ferrari pour cette saison. Et pourtant, sans que rien ni personne ne puisse l'en empêcher, il sera couronné champion du monde deux manches avant la fin. De nouveau vainqueur au Japon, James Hunt ne sera même pas sur le podium. Mauvais perdant l'anglais, il a snobé la cérémonie protocolaire. Officiellement, de peur de rater son avion. Officieusement, il enrage d'y assister. La malédiction de Lauda est conjurée. Le voilà avec une deuxième couronne. Vous l'avez compris maintenant, ce pilote d'exception ne fait jamais les choses comme les autres. Après une première retraite, il revient en 1982 après 3 ans d'arrêt et est de nouveau couronné, une troisième et dernière fois en 1984. Son écurie ? Vous n'avez pas d'idée ? Je vous le donne en 1000. McLaren, tiens, comme un pied de nez à l'histoire de cette campagne de 1976. Son coéquipier dans ce nouveau duel d'anthologie ? Un certain Alain Prost. Triple champion du monde, cela suffit au miraculé Lauda. Il ne quitte pas les paddocks pour autant et devient conseiller de certaines écuries et mentor de certains des plus grands pilotes des futures générations. Le dernier en date, un septuple champion du monde courant toujours pour Mercedes Formule 1. Un certain Lewis Hamilton, rien que ça. Depuis son accident sur le ring en 1976, Niki Lauda subit des traitements médicaux qui détruisent ses reins. Par deux fois, il a dû subir une greffe. La première est réalisée grâce au don de son frère, la deuxième grâce à celui de sa compagne qu'il épousera juste après la transplantation. En août 2018, alors qu'il est en vacances, il doit être hospitalisé pour une infection pulmonaire. Une transplantation des poumons s'avère nécessaire et Niki Lauda est rapatrié à Vienne, sa ville natale. 43 ans après la tragédie sur l'enfer vert, le triple champion du monde s'éteint le 20 mai 2019. Il est inhumé, tout un symbole une nouvelle fois, dans sa tenue de pilote Ferrari. Toto Wolff, le big boss de l'écurie Mercedes Formule 1, la dernière écurie de Lauda, aura ces mots pendant la cérémonie. Aujourd'hui, Mercedes a perdu sa locomotive. Pour avoir collaboré avec lui au cours de ces 6 dernières années, je peux affirmer qu'il était parfois cruellement honnête, mais également très loyal. Ainsi meurent les demi-dieux du sport, aimés et surtout respectés de tous. Celui qu'il avait sauvé sur le ring plus de 40 ans plus tôt, toujours vivant aujourd'hui, déposa sur son cercueil la Rolex que lui avait offert le pilote Ferrari. Niki Lauda avait 70 ans.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.